dire, dans le corps de celle que vous appelez, avec ce mot que je trouve vraiment assez laid pour tout dire, de gestatrice. Donc c'est bien le sperme de votre mari.
Mais non, pas seulement. Pas seulement. En fait, ce ne sont pas les embryons. Et c'est là que réside parfois la méconnaissance de ce qu'est la GPA. Dans la GPA, il n'y a aucun lien génétique entre la femme qui porte l'enfant et le fœtus qu'elle porte et l'embryon qu'elle va porter. D'accord ? Il n'y a aucun lien génétique. Donc, c'est pas ce que vous décrivez, c'est une insémination. Mmh. Et ce n'est pas le cas. Donc, on fait d'abord des embryons, et ça, c'est permis depuis, justement, la technique de fécondation in vitro. Et là, je crois que tout le monde sait de quoi il s'agit.
Bien sûr. C'est ce qu'on appelle une FIV, en fait.
Donc, ça n'a aucun lien génétique. En fait, la femme qui porte n'a pas de lien génétique avec l'enfant qu'elle porte. Et ça, c'est totalement différent. Sinon, ça s'appelle effectivement, comme vous dites, une mère porteuse à l'ancienne, où effectivement, on faisait une insémination du sperme du mari, et uniquement ça.
D'accord. Alors, ces enfants, donc, elles sont jumelles aujourd'hui, elles ont 24 ans.
Hein ? 23, oui.
23 ans. Et je voudrais savoir à quel âge vous leur avez raconté l'histoire de leur naissance ? À quel âge ?
Eh bien, dès le début, en fait.
Bah, dès le début.
Dès qu'elles ont pu parler un petit peu, commencer à entendre. En fait, depuis le début, on leur montrait la photo de la femme qui les a portées. Et on disait, ça, c'est la femme qui nous a aidés. On l'appelait la fée, on l'appelait la nounou, on l'appelait par des tas de petits noms. Et petit à petit, en grandissant, elles demandaient, mais c'est qui cette dame ? C'est la dame qui nous a aidés. Et quand elles ont eu 2 ans et demi, on est retourné la voir, elle et ses enfants, parce que je dois préciser qu'elle avait déjà 4 enfants, donc évidemment elle n'en voulait pas d'autres. En revanche, elle aimait être enceinte et elle voulait absolument aider un couple, parce qu'elle avait vu sa propre mère souffrir d'infertilité et que pour elle c'était inconcevable qu'une femme ne puisse pas avoir d'enfant. Et donc elle l'a vraiment fait par amour pour aider. Et pas du tout pour
j'entends
des raisons
bien,
commerciales ou autres. Au contraire, elle était d'ailleurs, elle gagnait plus d'argent que nous.
Ce qui m'intéresse,
elle travaillait, son mari aussi. C'était une famille aisée, donc ça n'a rien à voir.
Marie-Agnès,
les mensonges qu'on entend.
Marie-Agnès, je vous coupe parce que je reviens. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment votre sentiment et le sentiment de vos enfants. Donc ces enfants, on leur apprend à très tôt une histoire particulière. Et comment l'ont-ils vécu et que vous disent-ils aujourd'hui ?
Alors ils l'ont tellement bien vécu, elles l'ont tellement bien vécu, que l'une d'entre elles a écrit un livre témoignage à sa majorité quand elle a eu 18 ans. Où elle raconte, justement, et je vous invite, j'invite vraiment les auditeurs à le lire, qu'elle ne s'est jamais sentie différente des autres. Que la façon dont elle est née, ça ne la résume pas. Ça ne résume pas son histoire, ça ne résume pas sa vie. Elle est une enfant, une femme maintenant, comme les autres. Exactement comme les autres. Avec les mêmes problèmes, les mêmes joies, les mêmes ambitions.
Donc, il voilà, n'y a aucun lien génétique entre vos filles et vous. Nous sommes d'accord.
Alors, non, il n'y a pas de lien génétique entre mes filles et nous, parce qu'avec mes ovocytes, donc j'ai essayé, et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que le syndrome dont je souffre, enfin, que j'avais à la naissance d'ailleurs, et qui touche une femme sur 4500, ce syndrome fait que parfois aussi, il s'accompagne de problèmes au niveau des ovaires.
D'accord, donc il
n'y
a aucun lien génétique entre vos enfants et vous, et aucun lien génétique entre votre mari et vos enfants.
Ah si, mon mari a donné son sperme pour fabriquer les embryons.
C'est ce que j'avais posé tout à l'heure comme question. C'était la question que j'avais posée tout à l'heure. C'est d'ailleurs peut-être assez technique et je ne suis pas sûr même que les auditeurs comprennent parfaitement. Dernière chose...
Je pense qu'ils comprennent très bien.
C'est un peu technique, si vous me permettez, d'où nos questions. Dernière chose, pourquoi vous n'avez pas adopté ?
Mais parce que ça n'a rien à voir. L'adoption, c'est autre chose, c'est un autre processus.
Mais j'entends bien, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez préféré la gestation pour autrui à adopter un enfant. Quand vous dites que c'est un autre processus, bien sûr que c'est un autre processus, mais l'objectif est le même, c'est-à-dire d'avoir un enfant alors que vous ne pouvez pas en avoir. Donc ce qui m'intéresse... Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous avez préféré la gestation pour autrui à l'adoption.
D'abord, ce n'est pas une préférence et ça ne doit pas être posé comme une alternative ni opposée, en fait. Nous, ce qu'on voulait, enfin moi, ce que je voulais, c'est pouvoir raconter l'histoire de leurs origines à mes enfants, à mon enfant, à mon futur enfant. Je ne voulais pas ne pas pouvoir répondre à ces questions. Ensuite, l'adoption, très franchement... on sait aujourd'hui, et de plus en plus, que c'est très difficile, qu'il y a très très peu d'enfants adoptés. Donc il ne faut pas faire croire que c'est une alternative.
D'accord. Votre réponse est claire.
C'est autre chose, c'est un autre processus.
Bah, je vous remercie beaucoup, Sylvie.
C'est pas du tout la même chose.
Je vous remercie beaucoup.
Pour ce qui nous concerne, on s'était aussi renseigné sur l'adoption, mais quand on a vu le peu d'enfants qui avaient adopté, la difficulté, etc., on s'est lancé dans la GPA parce qu'on a considéré que c'était quelque chose de profondément éthique.
Donc on est avec M. Friedman, je crois. Bonjour M. Friedman.
Bonjour M. Pro.
Et merci d'être avec nous. Chacun évidemment vous connaît pour vos travaux sur ces domaines qui réclament sans doute une expertise particulière. Je posais des questions un peu naïves et je demandais à cette femme... tout à l'heure, si ses jumelles étaient liées génétiquement avec elle. Et la réponse est non. Mais en revanche, ses jumelles sont liées génétiquement avec leur père. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Non, ce n'est pas toujours le cas dans la GPA. Il y a une femme qui peut donner un ovocyte et une autre femme qui peut porter l'enfant. Parfois, c'est la même. Si c'est la même... ça ressemble fortement à ce qu'on a connu depuis le début du monde, c'est-à-dire que c'est une femme qui porte un enfant et c'est la mère puisqu'elle a ses ovules et son utérus. Maintenant, dans le cas où c'est deux hommes, évidemment, il faut un ovocyte et un utérus. Et ça peut être la même femme, avec le problème qu'on évoquait tout à l'heure, ou bien ça peut être deux femmes différentes, ce qui multiplie le coût et les difficultés.
René Friedman, hein, qui, je le rappelle, est le père du bébé éprouvette Amandine et qui est obstétricien, gynécologue et qui intervient sur ces sujets-là depuis de nombreuses années. Le Parlement européen, Monsieur Friedman, hier a criminalisé la gestation pour autrui qu'il considère comme un trafic d'êtres humains. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision ?
Oui, ça correspond à la réalité parce que, en fait, si vous voulez, quand on parle de la GPA, surtout en France, on a toujours des gens, people, qui témoignent, et c'est toujours ceux qui en bénéficient. On peut comprendre un couple qui a un projet d'enfant et qui n'y arrive pas, il est prêt à tout faire. Là où je pense qu'il faut changer le regard, c'est surtout sur la femme qui va porter l'enfant, qui a signé un contrat et qui va s'en séparer. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'il y a une aliénation qui est organisée. Financièrement, c'est une location du corps. Et il faut qu'on se préoccupe de ces femmes plutôt que de ceux qui vont bénéficier. C'est comme si vous demandiez à un propriétaire terrien du temps de l'esclavage qu'est-ce qu'il en pensait. Évidemment, il en pensait du bien parce que lui, ça lui faisait une main-d'œuvre gratuite. Maintenant, les esclaves, c'est autre chose. Et dans cette histoire-là, quand on regarde sur le plan international, vous avez des pays les plus pauvres, comme le Vietnam, comme le Laos, et comme à un moment donné l'Ukraine, où des femmes, un peu par nécessité, on va dire, quoique il y en a quelques-unes, c'est un peu différent, mais la majorité, c'est par nécessité, vont signer un contrat qui les aliène automatiquement. Donc à une période où on est sur MeToo, sur la dignité de la femme, sur sa responsabilité en tant que personne, c'est à ce niveau-là qu'il faut se pencher. Ce n'est pas les témoignages de ceux qui ont des enfants qui ont vu automatiquement sont favorables, évidemment.
Alors, je rappelle que plusieurs pays européens, dont la France, interdisent la GPA. C'est le cas en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Luxembourg. Mais il y a d'autres pays, en revanche, qui l'autorisent en Europe, c'est-à-dire le Danemark, les Pays-Bas, l'Albanie, la Géorgie, la Grèce, le Canada, certains États également fédérés américains. Mais vous parliez de la mère porteuse, et ce terme n'est pas très élégant, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les enfants. Et les enfants, est-ce qu'il y a un traumatisme ou pas ? Est-ce qu'on a assez de recul ou pas. C'est ça la question qui me paraît essentielle. Et moi, je n'ai pas de réponse à apporter à ça. Est-ce que vous en avez une ?
Ben non, parce que c'est très difficile. Il faut faire une enquête sur de nombreuses années. Et à mon avis, elle n'a pas été faite parce que les gens gardent leur anonymat. Et il y a peu d'éléments pour répondre à cette question. Or, vous avez raison. C'est effectivement une bonne question. Moi, je ne peux pas répondre. Par contre, ce que je sais, c'est que, par exemple, là, actuellement, il y a une jeune femme qui s'appelle Mme Morel, je crois.
Oui.
Est née par GPA et qui milite vraiment contre. Elle a un vécu. Maintenant, vous allez en trouver d'autres qui vont être favorables. C'est pas, si vous voulez, les témoignages point par point, c'est des histoires de chasse qui ont leur valeur, mais qui ne représentent pas une approche scientifique. Pour ça, il aurait fallu que ça soit parfaitement transparent, qu'il y ait un suivi qui soit fait de tous les commanditaires et les exécutants de ce projet. Or, ce n'est jamais fait, parce que il y a quand même un secret qui est donné, il y a quand même le problème commercial qui est très important, et donc on n'arrive pas à avoir un point de vue scientifique à la question que vous posez.
Bon, il faut toujours se méfier, effectivement, du raisonnement par l'exemple. Dernière chose, M. Friedman, je comprends que vous êtes contre la GPA.
Oui.
Ben, je vous remercie.
Je pense qu'elle a beaucoup de risques, elle entraîne trop de risques, et que, comme je l'ai, quand vous m'avez gentiment interviewé sur le bouquin dernièrement, qui est la tyrannie de la reproduction, j'ai essayé de démontrer que c'était pas si simple, parce qu'on voulait bien porter le regard sur la personne la plus fragile, celle qui est la plus vulnérable, c'est-à-dire celle qui va porter l'enfant et s'en séparer dès la naissance, ce qui pour un obstétricien n'est pas simple à vivre aussi.
Bah merci, et merci de cette clarté. J'ai été moi-même surpris parce que généralement je pose des questions, les gens ne répondent pas aussi clairement. Donc là, vous avez dit oui sans embâge. Et je vous remercie beaucoup à M. Friedman. Marie-Agnès est avec nous. Bonjour Marie-Agnès.
Bonjour Pascal.
Vous donnez à une association, je crois, qui est anti-GPA.
Oui.
Parce que vous considérez effectivement que c'est parce une que pratique qu'il faut combattre.
Oui, parce que je suis moi-même mère de famille, grand-mère et tout ce que vous voulez. J'avoue que je suis j'ai un côté féministe aussi. Je trouve que commercialiser l'utérus, c'est un commerce d'enfants. On vend un enfant. Et je ne conçois pas qu'on puisse abandonner son enfant à la naissance. Je comprends qu'on puisse le faire dans des situations absolument dramatiques et on le donne à l'adoption. Mais là, contre de l'argent, se servir, par exemple, dans tous les trucs qu'on parle de beaucoup dans les pays où en voie de développement où il y a une pauvreté, où on signe des contrats pour de l'argent, et si jamais l'enfant n'est pas conforme, on le rend.
Je ne crois pas qu'on rende l'enfant.
Parce qu'il va avoir une tare ou un truc comme ça. J'ai vu des reportages là-dessus ou des choses comme ça sur.
La question, elle est de principe. Mais je vais vous dire quelque chose. J'entends depuis 24 heures ce sujet et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Il y a des sujets, c'est assez rare d'ailleurs. Il y a autant d'arguments, je peux parler que pour moi, qui peuvent me faire pencher. D'un côté, à dire c'est une bonne chose. Quand j'entends M. Friedman, en qui j'ai tout respect, que je considère comme une sommité, qui connaît ces sujets mille fois mieux que moi, et qui dit « je suis contre », bah évidemment je suis enclin immédiatement à suivre son avis, parce qu'il sait de quoi il parle, alors que par définition, sur des sujets comme ça, moi, j'ai une approche lointaine, comme vous, comme nous, forcément. Ce n'est pas mon métier. Lui, il est au contact de cela et ça fait des années qu'il suit ces dossiers. Et il dit, je suis contre, donc j'ai envie d'être de son avis. Et puis, parfois, j'entends le commentaire tout à l'heure de cette jeune femme qui était avec nous, qui dit, j'ai deux jumelles, c'est lui, et ces jumelles sont heureuses. Et ça se passe bien avec celle qui a porté ses deux enfants. Nous avons un contact toujours, que nous avons su garder ce contact avec cette mère. Et je me dis, la vie est là, et c'est une manière différente qu'elle vienne sur la Terre, et pourquoi pas. Donc je suis démuni, pour tout vous dire, sur ce sujet. Et je n'arrive pas à avoir un avis définitif et je ne sais pas d'ailleurs quel est votre sentiment, Géraldine. Ah, il y a le lion qui revient.
Ce que j'en pense.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez au fond, une fois qu'on a tout dit?
Une fois qu'on a tout dit, moi je pense que la décision appartient à chacun, voilà. Et que
donc vous n'êtes pas sur la position du professeur Friedman.
Alors, moi, je dis médicalement et avec les traitements que ça engendre pour une femme, pour faire une FIV ou une insémination artificielle, c'est à réfléchir puisque c'est de lourds traitements et c'est pas facile. Et j'ai des amis qui ont eu recours à la GPA aux États-Unis et ça s'est très très bien passé. Et la petite fille en question est toujours en contact avec sa maman américaine.
Bon, Marie-Agnès, donc vous, votre position est claire, vous êtes anti-GPA, il n'y a aucun argument qui peut vous...
J'entendais ce matin sur Europe 1 l'interview de cette jeune femme, Madame Morel. Mmh. C'était poignant.
Non, parce non, mais
elle,
vous avez...
elle s'est toujours douté qu'il y avait quelque chose. Elle est née par GPA. Mmh. Et elle s'est toujours dit quelque chose. Et quand Géraldine parle des traitements très douloureux pour avoir un enfant, moi j'ai le cas d'un enfant qui subit ça en ce moment. Je peux vous dire que bon, mais elle pense pas. Mais pour moi, si vous voulez, c'est.
Il subit quoi, votre enfant?
C'est une espèce de commercialisation.
Pardonnez-moi, je comprends pas. Il subit quoi, votre enfant?
J'ai un de mes enfants qui a ma fille a des problèmes pour avoir un enfant et elle est à sa. Enfin bref, elle est.
Mais j'ai eu les mêmes, madame. En fait, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça. J'ai eu les mêmes. C'est pour ça.
C'est très douloureux. Ah, oui, c'est très excessivement douloureux. Oui. C'est horrible. Je ne voudrais pas avoir. J'ai eu la chance de pouvoir avoir des enfants normalement. Je ne voudrais pas avoir à vivre ce que vit ma fille, voilà. Mais si vous voulez, pour moi, la gestation pour autrui, la manière dont c'est fait, quand vous voyez ces filles qui sont enceintes et qui attendent sur des lits et qu'on vient de prendre leur bébé, c'est cette espèce de commercialisation qui me choque profondément.
Donc si c'était pas, par exemple, s'il n'y avait pas d'argent échangé, ça ne nous choquerait pas.
Oui, encore que. Parce que c'est le principe, moi, je vois.
Oui, mais bon, mais j'entends cet argument et c'est pour ça que cet argument est très puissant et très fort. Vous avez parfaitement raison. Comme j'entends l'argument de porter un enfant sans avoir de sentiments pour lui, c'est ce qu'on nous explique. Bah non, ça me paraît impossible non plus. Donc, bien sûr.
On vous dit que quand une grossesse n'est pas voulue, l'enfant subit le traumatisme.
Non, mais ça.
À l'intérieur du ventre de sa mère, du fait de ne pas avoir été voulu. Qu'est-ce que ça va donner plus tard?
Mais j'entends tout ça. Entre, je vous remercie beaucoup, Marie-Agnès. Vraiment, merci beaucoup.
Merci.
Il n'y a pas de gestation pour autrui chez les lions, monsieur Bouc.
Non, je ne crois pas.
Mais,
bon, parce que dites à ceux qui nous rejoignent que je suis déguisé.
Oui, vous êtes déguisé.
On ne doit pas prendre les serpents, d'ailleurs.
Mais ce qui est étrange, c'est que bon, nous avons fait une petite surprise à notre amie Anissa.
Oui.
Mais je pensais que vous enlèveriez aujourd'hui votre habit de lion. Non, vous allez le garder tout le temps.
Bah, vous me préférez en lion, en félin ou en normal? C'est vous qui choisissez.
Le mot normal est-il vraiment adapté à vous?
Je suis pas mal en mascotte, non?
Mais je vous trouve remarquable, mais vous n'avez pas chaud?
Mais si, bien sûr que si.
Et vous êtes nu en dessous dans votre...
Complètement nu, c'est pour ça que je me déshabille pas.
Puis vous allez bien ensemble, vous êtes félin pour l'autre.
Vous voyez pourquoi?
Là, je vous comprends.
Comme quoi, lui aussi, hein, les blancs à l'antenne, il maîtrise. Hein.
D'être fait l'un pour l'autre, ça, c'est là.
J'ai vu dans les yeux d'Anissa tout à l'heure qu'elle était séduite par ma mascotte.
Mais non, mais je pense qu'elle a cru.
Que c'était.
Je pense. Je pense.
Son... Oui.
Ah, je pense.
Ah, vous pensez qu'elle a vraiment cru?
Elle a eu une petite larmichette.
Non!
Je vous jure.
Mais d'émotion,
D'émotion,
pas de tristesse, hein, de déception.
Non. Alors, évidemment, quand vous avez enlevé votre masque, là, elle a retrouvé la réalité.
Non, mais il s'est passé un truc. C'est ça la technique, je vais venir en Lyon en soirée. C'est ça la solution. Bien sûr.
Non. Bon, pourquoi étiez-vous venu dans ce studio? Vous vouliez dire quelque chose?
Pour vous voir de près, mais je peux repartir. Hein.
C'est payant désormais.
Oh, bah dis donc. 5€ comme à Venise.
On va mettre, vous savez, dans les musées, il y a ça, des petits cordons rouges.
Bah, vous n'êtes pas une œuvre d'art.
Les gens viendront nous voir et puis nous jetteront.
Oui. Le jour où je mets de l'argent pour vous, vous m'appelez. Hein.
Et faites attention si vous allez à Beauval comme ça, hein, parce que là, vous ne ressortez plus.
Mmh, vous savez que le directeur est dans les locaux aujourd'hui.
Le directeur de Beauval?
Oui, dans les locaux. Il enregistre une émission avec Elisabeth Assayag.
Il est venu chercher Monsieur Liberty.
Oh non.
Non, non, non.
Non, 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 non,
Monsieur Liberté.
Non, arrêtez avec ça,
Monsieur Liberté.
Non, là, ça devient trop.
Non, pas Monsieur Liberté.
La coupe est pleine.
Pas Monsieur Liberté.
Bien sûr.
Allez.
Oh non.
11h40.
Je vais me faire virer.
Non, mais il est peut-être venu chercher des animaux.
Arrêtez.
Des animaux qui iraient à Beauval. S'il pouvait en prendre un, ça nous arrangerait.
Florian, il serait très bien là-bas, Florian.
Ah, mais Florian, il a eu. Florian, vous savez ce qu'il a fait hier soir? Oh. Alors ça, je ne savais même pas que ça existait. Il a fait un dîner.
Ah bon ?
Il y a une application où tu peux dîner avec des inconnus.
Oh là !
Non mais ça, c'est un bon sujet. Sérieusement, Florian.
Oui.
Cette application.
Bonjour déjà.
Bonjour.
Commencer par là.
Je trouve ça formidable. Parce qu'en fait, je ne savais même pas que ça existait. Donc il y a une application. Comment s'appelle cette application ?
Time Left.
Comment vous dites ?
Time Left.
Ah, Time oui, voilà. Left.
Mmh, oui.
Donc. Par exemple, moi, si je vais sur Time Left, je mets mon nom et je me retrouve avec des inconnus.
Il faut mettre ça, il y a un petit questionnaire.
Il y a un petit questionnaire.
Le lieu où vous voulez être, rive droite, rive gauche pour Paris.
Le oui. Salaire. Le salaire. Ça y est, tout sur la table.
Non, mais...
Europe 1. Pascal Pro et vous.
Alors, ceux qui nous suivent régulièrement depuis le 28 août oui. savent que tout est possible ici, toutes les discussions sont ouvertes et on se sert de tout ce que nous entendons et qui me paraissent faire sens,
tout
évidemment. Et Florian Karasoumayan, qui travaille avec nous, qui est à la programmation, ce matin me dit j'ai dîné hier soir avec des inconnus.
Absolument.
Et c'est important de dire, Florian, votre âge, parce que tout ça est générationnel, comme toujours. C'est toujours la même grille de lecture que je sors à chaque fois. Mais j'imagine pas les gens de 65 ans ou 70 ans faire un dîner avec des inconnus.
Alors moi, j'ai 37 ans.
Voilà, bon. Alors, racontez-moi, c'est la première fois d'ailleurs que vous faisiez ça ?
C'est la première fois, oui.
Bon, vous vous êtes inscrit donc sur...
Je suis inscrit sur une application qui s'appelle Time Left. Mmh. Et en fait, on remplit un profil. Mmh. Donc, on donne notre âge, où est-ce qu'on vit, ce qu'on fait dans la vie. Mmh. Et après, on a tout un questionnaire qui nous demande sur l'humour, on se situe entre 1 et 10.
Vous avez mis combien ?
J'ai mis 4. Voilà, il y a plein de petits...
Bon, honnête.
Il y a plein de petits sujets comme ça.
Il y a peu de gens qui disent j'ai pas d'humour du tout. C'est quoi les autres, le questionnaire mis à part ça ?
Après, c'est est-ce qu'on est végétarien ou pas ? Est-ce qu'on aime l'actualité, la politique ? Est-ce qu'on préfère aller à la montagne ou à la mer ? Voilà, c'est plein de petites questions qui permettent de.
Et il y a des questions un peu intimes ?
Non.
Sur ses goûts
Non, il n'y a pas de question intime. En fait, ce n'est pas forcément une application pour rencontrer l'amour, mais c'est pour rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas dans la vie de tous les jours.
D'accord. Alors, donc, vous avez fait ça. Quand est-ce que vous avez rempli ce questionnaire ?
Je l'ai fait dimanche soir. Mmh. Ça a été validé tout de suite. Et après, au fur et à mesure, on a le restaurant. Mmh. On a le groupe qu'on va rencontrer. Donc, on sait à peu près dans quel secteur d'activité les personnes
mais
travaillent.
Par exemple, le restaurant, j'imagine qu'on vous demande le prix que vous voulez mettre.
Oui,
pour,
oui, oui, absolument.
Voilà. Il y avait une fourchette.
Il y a une fourchette, il y a trois critères. Le symbole euro une fois, deux fois, trois fois pour.
Ah oui, donc si tu veux rencontrer des gens riches, il faut 3 euros.
Il
faut 3 symboles. Autrement, si tu veux rencontrer des gens un peu radins, c'est un seul. Tu mets qu'un euro.
Moi, j'aurais mis qu'un.
Bon. Vous en auriez mis zéro, c'est dommage, il n'y a pas. Est-ce qu'on peut être invité ? Est-ce qu'on peut ne pas payer ? Bon, donc, et vous aviez mis combien d'euros ?
J'avais mis 2.
2 euros.
Ah, quand même.
Bon, voilà, oui, vous aviez envie de. Bon, alors donc, c'était dans un restaurant. Dans Paris, c'était où dans Paris ?
C'était dans le 17e arrondissement de
Mais
Paris.
Alors, ce resto, qui le choisit ?
C'est l'application. En fait, l'application nous fait découvrir le restaurant.
Je jure, c'est formidable.
Oui. Et les personnes avec qui on va dîner.
Et c'était un restaurant, c'était quoi comme restaurant ? C'était une brasserie ?
Oui, c'était une petite brasserie. On a très bien mangé.
Donc, vous êtes arrivé. Qui est arrivé le premier ?
Alors, c'est une jeune fille qui est arrivée juste avant moi. Moi, je suis arrivé en deuxième.
D'accord.
Et au fur et à mesure, les convives arrivent.
Alors, les 6 convives, il y avait garçons, filles ?
C'est mixte, oui. Il y avait 3 filles et 3 garçons. On devait être 7. Il y a une personne qui a annulé au dernier moment. Mmh. Et du coup, on avait tous les âges. On avait de 37 à 39 ans. Donc, on était à peu près dans la même fourchette.
Ah oui, il n'y avait pas tous les âges.
Non,
37 à 39 ans, c'est même une petite fourchette. Il y avait tous les âges, 37 ans, 37 ans et 3 mois, 37 ans et demi.
C'est ça parce qu'en fait, il y avait une personne qui avait 35 ans, après on était 37 et 39.
Et donc, ces gens-là étaient, entre guillemets, d'un niveau catégorie socio-professionnel équivalent.
Oui.
Donc, par exemple, les 6 travaillaient, les 5 travaillaient.
Tout le monde travaillait.
Oui.
On avait des personnes qui travaillaient en tant que RH dans une boîte pharmaceutique.
Oui.
On a une personne qui était dans l'énergie, une autre qui était au niveau du.
Tout le monde est célibataire quand même, a priori, j'imagine.
Oui.
Hein, parce que c'est...
On n'a pas posé la question. Et non, franchement, c'est la seule question qu'on a posée.
À vendre à sa fiancée, ce soir, tu fais quoi? Je vais dîner avec des inconnus. Bon, à mon avis, c'est pas facile à vendre.
C'est là où il y a un poil malhonnête. Pardon, mais. Ouais, pourquoi? Il dit qu'il rencontre que c'est pour rencontrer des gens, alors que pas du tout, Florian, c'est pour rencontrer une femme.
Non, mais c'est une manière. Oh, bah, oui,
c'est comme quand même.
Si on enlevait, c'est comme quand on allait. En fait, je vais vous dire quelque chose. C'est comme quand on allait en boîte de nuit quand on était jeune. Si tu enlevais la drague dans les boîtes de nuit, quand on avait 25 ans, on n'y allait pas pour danser de temps en temps.
Mais monsieur.
Globalement, c'était quand même pour, entre guillemets, draguer, me semble-t-il.
Non, vraiment. Alors, j'ai été très, très mauvais et je n'ai pas su draguer les personnes qui étaient présentes.
Alors, est-ce que les garçons ont payé pour les filles hier soir?
Non, chacun a payé sa part.
Ah, c'est nul. Ouais,
ça, c'est pas terrible.
Vous êtes radin.
Bon, et est-ce que c'était sympa, par exemple?
C'était très sympa. C'était vraiment très sympa. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés. On a rigolé, on a parlé de nos vies, nos parcours. Très agréable.
Bon, et ces gens-là, par exemple, vous avez pris les coordonnées.
Je réponds pour lui. Oui.
Des filles ou des garçons?
De tout le monde. On a fait un groupe.
Non, mais vous savez, ça, c'est dans tous les dîners. Dans tous les dîners, quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas, on prend toujours son téléphone. C'est comme les gens qu'on rencontre en vacances dans un hôtel, et puis on les rappelle jamais, et puis on les oublie. Parce que c'est la vérité. Parce que ces gens, vous pensez que vous allez les revoir?
Oui, peut-être. Peut-être pas tous, mais
ce soir. Mais la jolie brune, peut-être que je vais la revoir.
Mais ce matin, il regardait les photos d'une jolie blonde.
Ah bah oui, elle est, comment elle s'appelait d'ailleurs?
Allez.
Non, mais vous nous avez. Elle était jolie d'ailleurs, il nous a montré.
J'ai pas vu la photo.
Ah ben non, mais.
Je crois qu'il a oublié le prénom.
Il a déjà oublié le prénom. Bon.
Vous voyez, c'est tellement l'usine qu'il oublie le prénom.
Non, mais vous, est-ce que vous iriez dîner avec. Et alors, vous êtes rentré à quelle heure?
Je suis rentré, c'était minuit.
Et vous aviez rendez-vous à quelle heure?
À 20h.
Ah oui, vous êtes resté 4 heures. Vous avez un petit peu bu de vin, un petit peu de...
J'ai pris un cocktail.
Un petit cocktail.
Non, mais c'était vraiment une soirée très sympa. Et on rencontre des gens très, très agréables.
Bah, très agréables. Bon, bah écoutez, c'est parfait.
Je vais le faire.
Bon, bah, et ça vous a... Monsieur Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est sympathique. C'est, bah, ça permet de rencontrer. Mais si on est des gens en couple, ça n'a pas d'intérêt.
Ah oui, parce que oui, effectivement, si on vient à deux, alors c'est un couple qui n'a pas d'amis. Personne ne les aime.
C'est un autre type de soirée, c'est des couples qui se rencontrent.
Oui, c'est des couples qui se rencontrent. Ah bah oui, ça, vous êtes habitués à cette affaire, manifestement. Oui.
Il y avait une autre table qui était derrière nous et c'était beaucoup plus jeune. Ils avaient 25 ans.
Parce que c'est un restaurant qui, manifestement, il n'y a que des inconnus.
Là, il y avait deux tables. Il y avait la nôtre et la table numéro 2 et eux avaient 25 ans. Donc peut-être qu'Olivier a une chance un jour.
Non mais là je vais y aller.
Mais oui.
Ah bah
oui.
Non mais bien sûr.
Pour payer par contre.
Moi je trouve. Je vais vous dire. Je trouve que c'est un formidable sujet. En fait c'est très intéressant. Et je suis même persuadé qu'il y a des gens. C'est une manière de rencontrer. Je ne savais même pas que ça existait. On rappelle comment elle s'appelle cette application?
Time Left.
Time Left. Bon.
Écoutez, comment vous l'écrivez?
Time Left?
Non, T-I-L-E.
Mais vous êtes. Comment vous. Vous croyez que je ne sais pas écrire Time Left? Non, mais vraiment.
C'est anglais.
C'est.
Oui. Oh là là!
J'ai commandé tout!
Non, j'ai commandé tout!
Non, mais quel intellectuel!
Je cache!
Écoutez, quand il m'a dit ça, moi, vraiment, je suis toujours curieux des choses un peu nouvelles et.
Vous pourriez le faire, vous?
Oui, j'en sais rien. Si je pourrais le faire, je vais réfléchir. Je suis pas sûr que les gens seraient contents de me voir arriver si en plus c'est des gens qui m'aiment pas trop. Non, mais vous raisonnez. Je finirais manger tout seul.
Oui. Alors pourquoi du Mike Brandt déjà, Pascal?
Bon, c'est une chronique en fait.
Puisque Mike Brandt nous quittait le vendredi 25 avril 1975.
49 ans, l'année prochaine ça fera 50.
C'est ça, et il avait été découvert en mai 69 dans un club d'un hôtel par Sylvie Vartan et son fidèle secrétaire particulier Carlos. Et c'est Sylvie Vartan qui lui a donné l'envie de venir nous rejoindre en France.
Laisse-moi t'aimer.
Et vous avez remarqué son français impeccable, alors qu'il a chanté phonétiquement, puisqu'à l'époque, il ne parlait pas un seul mot de français.
Il ne vous écoute pas.
C'est terminé. Tant pis.
C'est une voix incroyable.
Ouais.
C'est une voix absolue. Parce que... essayez de chanter ça au karaoké. Ça, c'est plus facile. Mais l'autre...
Parce que depuis tout à l'heure, vous faites du playback. En studio. Non, mais c'est vrai. Oula, je vais sortir. Je
crois que c'est fini, là.
Mon aventure Europe 1 se termine ici.
Mais il était tout jeune, en plus, quand il est mort.
Oui. Il avait 28 ans. Alors qu'il a commencé à chanter à partir de 22 ans. Donc sa carrière était très, très courte.
Ouais. Et moi, j'ai très bien connu le président du fan club de Mike Brand du 14e arrondissement. Parce qu'il y a plusieurs fan clubs et c'était Christian Olivier qui était président du fan club Mike Brand du 14e arrondissement.
Il l'est toujours.
Il l'est toujours. Vous pouvez lui envoyer d'ailleurs
des mails,
des lettres et des posters.
On rappelle son adresse.
Non, mais... Qui sera ce matin. Moi, j'ai écouté, alors j'étais dans ma... Je sais pas si elle m'entend, Omblin est d'or à cette heure-là, peut-être. On pourrait l'appeler Omblin, d'ailleurs.
Elle dort,
on va la réveiller. Bon, et j'étais dans ma salle de bain, je vous jure que c'est vrai, ce matin. Il était 6h25 et j'ai levé mon petit poste. Parce que j'écoute Europe 1 le matin.
Ah oui, d'accord.
J'ai haussé le son.
Ah oui, d'accord.
Le son, levé, je ne l'ai pas levé.
Il est là.
C'est bien finir ses phrases quand même. Il se lève pas. J'ai levé dans la salle de bain et je chantais tout seul.
Et vous savez que cette chanson avait été refusée par Claude François. Heureusement pour Mike Brandt.
Incroyable. Mais incroyable, la mélodie. Et quand il arrivait, vous savez, on entendait les filles crier. Ah ça, on vient de l'entendre déjà.
Ah bah vous en mettez une autre,
si vous voulez. C'est bon. Ça, c'est dis-lui.
Fais ça pour moi, dis-lui. Que les choses sont elles.
Le format de l'émission a changé, non?
Non, mais lorsqu'il est mort, celui qui s'occupait de lui était dans un couple d'amis qui ne le lâchait pas d'une seconde, d'une minute. Parce qu'il était dépressif, il ne prenait pas ses médicaments et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est suicidé dans cette rue qui est une des rues maudites de Paris, qui est la rue Erlanger, où il y a des fantômes. C'est là qu'il y a eu ce fameux incendie. Il y a des rues de Paris dans lesquelles, j'allais dire, il ne faut pas habiter. Il y a plein de gens qui habitent rue Erlanger. Mais elle est maudite, cette rue, comme la rue de Friedland. Tapie m'avait dit ça. C'est une rue maudite. Quand il était allé rue Friedland, il avait eu plein d'ennuis. Il faut faire très attention, il y a des fantômes hein, parfois.
Non.
Bien sûr.
C'est comme ça que je t'aime.
Il y a des rues maudites, hein, je jure.
Non, mais arrête, c'est trop fantôme.
Mais évidemment, il y a des fantômes.
Non, mais arrête.
Mais tout le monde sait qu'il y a des fantômes.
Non, mais arrêtez vraiment, parce qu'après, je vais y penser, je vais pas dormir, vous me connaissez. Arrêtez.
Surtout du côté de Boulogne.
Monsieur Jérôme Béglé qui vient d'entrer dans notre studio.
Et qui chante.
Ah, il chante. Il vaut mieux pas. Non, mais il chante, mais surtout, vous connaissez Monsieur Boubouk?
Bah oui,
je suis pas dans ma meilleure tenue là.
Vous êtes
très bien habillé, presque aussi bien qu'habillé. On a les mêmes couleurs.
Oui,
on a même d'ailleurs.
Je suis d'accord avec vous. Bon, on va marquer une pause peut-être et après cette. On n'a pas d'intervenant, d'auditeur.
Non, j'ai pas eu le temps de me déguiser, j'ai pas eu le temps de.
Vous pouvez pas tout faire là.
On aurait pu appeler Christian Olivier, qu'est-ce que vous en pensez? Pour parler de Mike Brandt. Non, moi, celui que je préfère, c'est la chanson que je préfère, on pourrait la réécouter et la chanter ensemble, c'est Qui sera.
Voilà. Ah,
Qui sera, elle est vraiment géniale.
Qui sera, qui sera, qui sera, qui sera me faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui sera, oui, qui sera, oui, qui sera. Oui, mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que bientôt je sortirai de l'ombre.
On a brillé là.
Tout ce que j'ai perdu, je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous le pouvez, dites-le-moi. sera, qui sera.
On a changé de concept.
Mais oui, vous écoutez Europe 1.
Écoutez-nous.
Jérôme Béguet chante très bien.
Mais bien sûr, mais j'ai rien dit.
Jérôme Béguet chante très bien et bien mieux que vous. Si je peux me permettre. Non, mais pardon, mais là.
Communion, mariage, bar mitzvah, appelez-moi. Le week-end, j'ai un peu.
Je vais appeler notre ami Elie Semoun si vous m'ennuyez.
Non. Ah oui, oui, bah je pense qu'il aura le même avec moi.
Bon, allez, on marque une pause et on revient. Alors, vous m'avez apporté quoi, cher ami?
Le numéro 1 de Paris Match. Le premier exemplaire paru en mars 1940.
Ah, non, pas cher, du tout. C'est collector.
Je vous le montre. Voilà.
Mais pourquoi vous ne le donnez pas?
Ça vaut cher, je pense.
Vous ne le méritez pas. Non, non, c'est pour vous montrer qu'il y a une certaine permanence.
Femme qui est à droite.
Il y a une certaine permanence dans le journal depuis 75 ans.
Je reconnais Winston Churchill. Bah, d'abord, c'est le 12 mars 49.
C'est ça, oui.
Ben, on est le 24 avril.
On ne le fête pas exactement le jour J, mais ça fait 75 ans.
Ah bah oui, bah pourquoi vous ne l'avez pas souhaité le 25 mars 49?
Parce que c'était les vacances, mon cher Pascal.
Ah,
c'était
pas...
Donc,
il y a 75
ans et un mois sans détail.
Paris Match, en fait, a 75 ans et un mois. Voilà.
Oh, mais ça ne va pas du tout.
Ah, je vois du coup.
Je ne savais pas ça faire.
Donc, on voit Winston Churchill. Quelle est la jeune femme qui est là?
Mais je ne sais pas.
Mais je ne sais pas qui c'est non plus.
Il y a un reportage sur... Bah, on en parlera après, peut-être.
Il y a Glenn Miller, américain en quête d'auteur français, manifestement. Alors, il est devant...
C'est un reportage à Berlin.
Oui. Bonjour Pascal, bonjour Patrick Jérôme. Mahé, pour parler de cette légende de Paris Match. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on regardait à l'instant le premier numéro de Paris Match, et Jérôme disait l'ADN du journal n'a pas changé. Ce sont des reportages, c'est un peu de people, ce sont des photographies... C'est la télé, je le disais tout à l'heure aussi avec Patrick Mahé, en 49, en fait, Paris Match, c'est la télé, la télévision.
Et les pères fondateurs de Match, ils ont eu des idées très modernes, c'était comment démocratiser l'information, comment démocratiser la prise de connaissance du monde, de deux manières, par la photo omniprésente et par le récit. Raconter une histoire, comment le monde tourne. Bon. Et 75 ans plus tard, à l'ère des réseaux sociaux, d'Internet, de la télévision permanente, ce concept-là, cet ADN-là, il est on ne peut plus pertinent, on ne peut plus moderne.
Je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Patrick Mahé. On était ensemble sur CNews. Paris Match est un journal de stars et il n'y a plus de stars. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de stars dans le cinéma, il n'y a plus de stars dans la chanson, il n'y a plus de stars d'une certaine manière dans la vie politique, il n'y a plus de stars. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'imaginer Match et notamment une couverture de Match? Parce que Qui on va mettre à la une de Match?
C'est compliqué. D'abord, c'est pas forcément que un journal de stars. Paris Match, c'est un journal qui doit, à sa couverture, afficher une personnalité, un homme ou une femme. Et qu'un homme ou une femme, si possible, qui soit le plus impliquant et qui englobe le plus possible de Français, de lecteurs potentiels. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont très clivants. N'importe quel homme politique, beaucoup d'acteurs, de comédiens, de chanteurs, de chanteuses, de sportifs, il y a un petit groupe qui va les aimer et un gros groupe qui ne va pas du tout les aimer. Et en ce sens-là, c'est très compliqué de trouver une figure rassembleuse.
Mais alors, les gens vous connaissent évidemment parce qu'ils vous entendent beaucoup sur CNews. Ce qu'ils ne savent pas, Jérôme, c'est que vous avez commencé votre carrière à Match, que vous êtes quasiment un enfant de Match. Vous êtes resté combien de temps avant de partir pour Le Point ?
Je suis rentré à Match en novembre ou décembre 1996, donc j'avais 25 ans. Et j'en suis parti en 2009, donc j'en avais 12 ans de plus.
Donc c'est important, c'est des années de formation, des années de jeunesse, et que cet ADN, forcément, aujourd'hui il vous sert, puisque vous dirigez Match. Mais si par exemple, cette semaine n'avait pas marqué le 75e anniversaire, vous auriez fait la couverture avec Kenji Girac?
Alors, on s'est posé la question lundi et mardi. Peut-être, mais on avait un énorme problème pour Kenji, c'est que la version ou les versions qui nous étaient proposées dimanche et lundi et mardi matin étaient des versions que je qualifierais de friables.
Donc vous n'auriez pas fait la couverture.
On aurait fait, c'est peut-être un sujet, mais sans doute pas la couverture. C'était compliqué de trouver une vraie histoire à partir de témoignages qui se contredisaient et de faits qui n'étaient pas très établis.
Bon, Patrick Mahé qui lui incarne un passé de Match. Vous êtes resté combien de temps à Paris Match, Patrick?
Ce qui m'amuse, c'est qu'on s'est croisés, Jérôme et moi, parce que j'ai quitté Match juste un tout petit peu avant qu'il arrive, en 96. Je suis passé à Télé 7 jours, directeur de Télé 7 pendant 10 ans, en septembre. Et Jérôme est arrivé en novembre. Et puis finalement, on s'est retrouvé assez récemment, on s'est encore croisé. Et là, ce que je trouve formidable, c'est qu'il ait pris pile poil ma succession après mon départ. Je trouve ça formidable. C'est qu'il incarne vraiment
vous êtes resté
le match
combien de
demain.
Vous êtes resté combien de temps à match?
Après 25 ans, environ 25 ans, par deux grandes périodes, une de 16 ans continuellement, une autre de 5 ans, une autre de 2, enfin bon, à peu près 25 ans.
Alors l'ADN de match, c'est important de le dire, c'est quand même, si on parle people, c'est du people haut de gamme, c'est-à-dire on ne fait pas ce que font aujourd'hui d'autres magazines de où on dévoile la vie privée des uns et des autres. On n'est pas sur ce registre-là. On est quand même sur quelque chose de chic quand on parle.
Oui, absolument.
People.
Et sur rendez-vous. Et sur rendez-vous, c'est ça qui est important. Le mot rendez-vous est quand même capital, mais il est en fait de plus en plus difficile aujourd'hui. Je pense, Jérôme peut-être me contredira, mais je ne crois pas à monter des rendez-vous compte tenu du nombre d'intermédiaires par lesquels il faut passer. C'est parfois une course de haies, mais en fait, le contact avec des grandes personnalités, il est essentiel pour nous.
Patrick a raison, c'est assez compliqué. Il y a un nombre d'agents, d'intermédiaires. Donc on fait de temps en temps des paparazzi. La dernière qui a figuré en couverture de match, c'était la princesse, la fille de Caroline de Monaco avec... un homme qui... Enfin, un
donc
écrivain.
Ça, ce n'était pas un rendez-vous, par
non,
exemple.
Ça, c'était une paparazza faite dans la rue, près d'une gare
donc
à Paris.
Là, donc là, vous ne demandez pas l'accord, en l'espèce, de la fille de Caroline de Monaco.
De personne.
Bon, mais elle vous en veut peut-être.
Elle porte plainte contre nous, les deux portent plainte contre nous, on verra ce que ça donnera. En revanche, pour le numéro des 75 ans, on rassemble les 7 comédiens, comédiennes historiques du Splendide. Là, on l'a fait en direct. C'est-à-dire que j'avais des mails, en l'occurrence, des 7 personnes, et donc on leur a envoyé un mail pour, demander si ça les intéressait de le faire. Oui, à 99% enthousiaste, et après trouver la date qui convienne. Alors là, je peux vous dire que faire réunir 7 personnes un jour J, alors qu'ils n'habitent pas tous à Paris, ils sont tous en tournée, font des films, etc. C'était un énorme casse-tête, on a mis plus d'un mois à trouver la date qui convienne, chacun faisant un effort, et là on l'a fait en direct. Je pense que si on était passé par les agents, on n'y serait jamais arrivé.
Mais si je peux me permettre, ce que je trouve extraordinaire dans ce numéro anniversaire, justement, c'est ce que Jérôme a réussi avec son équipe, c'est d'avoir effectivement cette bande du Splendide au complet, et donc ça représente pour les gens 50 ans d'histoire, c'est du vécu partagé par tous les lecteurs. Et ensuite d'avoir rassemblé les cerveaux de l'intelligence artificielle. Du coup, il a réussi de transmettre ce pont entre toutes les générations. Donc il incarne l'histoire, la mémoire et l'avenir.
Est-ce qu'on sait qui lit Match, Jérôme Begley?
Alors, c'est un journal qui représente un peu le pays réel. Par exemple, par rapport à des hebdomadaires assez classiques, on est moins lu à Paris que par exemple l'Express, l'Obs ou Le Point, et on est beaucoup plus lu dans le reste de la France.
Mais c'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux?
C'est plutôt des vieux, mais pardon de dire ça, la presse écrite est une activité de lecteurs et lectrices un peu âgées. C'est assez compliqué parce que quand vous achetez un journal, on ne vous demande pas votre date de naissance. Et c'est plutôt, on est assez équitable homme-femme, 52 je crois pour 100 hommes, 48% femmes. Et on est plutôt, vous savez, ce qu'on appelait autrefois les métropoles d'équilibre, c'est-à-dire les grandes villes qui ne sont pas forcément Paris et les villes côtières. Voilà, c'est à peu près ça, Match.
Mais ce qui est intéressant quand même, et là on le souligne pour toute la presse, c'est que quand j'avais 15 ans, je lisais Match. J'achetais tous les jours des journaux, j'achetais West France, j'achetais l'Équipe, mes parents en tout cas achetaient ces journaux-là. Et quand l'été je suis en vacances avec des jeunes gens, c'est au moment où effectivement on peut échanger avec toute une jeunesse, il n'y a pas un gosse qui achète un journal aujourd'hui. Il n'y en a pas un. C'est-à-dire qu'ils ont tous l'info sur leur portable, etc. Donc on se dit, mais si on se projette dans 20 ans, est-ce que Match, est-ce que Le Parisien, est-ce que Le Figaro existera dans 20 ans?
Mais enfin, répondre à cette question, c'est un peu ambitieux, mais ce bain de jouvence que vous évoquez, et d'ailleurs que Jérôme évoque dans sa postface, c'est les réseaux d'aujourd'hui, c'est ce comportement d'aujourd'hui. Mais la photographie qui reste, qui n'est pas qu'une photo d'exprès, elle est informative, elle montre, c'est pas une illustration. On aura toujours besoin d'avoir des reportages qui feront date. L'Ukraine cette semaine, je peux vous dire que les gueules cassées d'Ukraine, vous les gardez en mémoire.
Mais le journal se vendait dans les années 60 à 1,5 million.
Disons que le journal,
pic de Match,
vous l'avez dit vous-même, Au début, c'était la télé. Bon, bah, c'était la télé. Après, la télé, c'est... Quand la reine d'Angleterre est venue en France en 57 et que le record des ventes a été de 2,331,574 exemplaires, eh bien, à l'époque, il y avait 1800 téléviseurs en France. Ça situe l'échelle.
C'est vrai que je le regarde à l'instant, ces gueules cassées d'Ukraine, et on voit là quelqu'un qui tient son œil. C'est incroyable. La photo d'ouverture incroyable. Qui tient son œil. Et on voit effectivement des gens qui ont été amputés et qui sont repartis manifestement au combat. On voit aussi un jeune homme qui a perdu une de ses mains, un de ses bras même. C'est vrai que ce sont des images qu'on ne peut pas évidemment oublier. On va marquer une pause peut-être à 12h26.
Absolument.
Et puis parler des stars, parce que c'est un jour des stars. Et puis la tradition d'écriture aussi, qui est importante à Match. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont pris la plume.
Bah, de Guillaume Anoto à Jonco et de nos jours. D'ailleurs, je sais qu'on en a déjà parlé, Jérôme et moi. Il réfléchit aussi encore à trouver des plumes nouvelles, fortes, importantes. Il y a toujours eu une grande... Le poids des mots, c'est pas léger, le poids des mots.
Le poids des mots, le choc des photos. C'est toujours d'ailleurs la devise de Match, ou c'est une devise qui n'existe plus?
Alors, elle a été un petit peu mise sous le boisseau, et dans le cadre de notre campagne de promotion qui va débuter la semaine prochaine, on va exhumer ce...
Il n'y a pas mieux.
Il n'y a pas mieux. Voilà, tout simplement.
Il n'y a pas mieux.
On a beau chercher midi à 14h, on ne voit pas mieux. Donc
pourquoi enlever
parce
ce
que ça avait été considéré comme quelque chose d'un peu vieillot, vieillissant, etc. Franchement, on s'est posé la question pendant de longues semaines. Que trouver de mieux que le poids des mots sur des photos? Quand on ne trouve pas mieux, on garde.
Et d'ailleurs, je remarque une chose, Jérôme, dans le mot de Brigitte Bardot, qui est publié dans Paris Match, elle fait allusion à quoi? À la fameuse signature emblématique, le poids des mots, le choc des photos.
Europe 1, Pascal Pro.
Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1 et Paris Match fête ses 75 ans, Pascal.
Exactement, nous sommes avec Patrick Mahé, qui est resté combien de temps à Match?
À peu près 25 ans.
Ah oui, quand même.
Au Natal, dans le sillage de Roger Théron.
Et vous avez connu la rue Pierre Charron?
Je l'ai connu, bien sûr, la rue Pierre Charron, mais pas en tant que journaliste. Je l'ai connu parce qu'il y avait quand même la Belle Ferronnière, qui était le bar de tous les grands photographes de Match. Qui
oui, mais est-ce que vous avez connu Match?
Non.
Match avait déjà déménagé.
Match, j'ai connu les Champs-Élysées. L'arrivée aux Champs-Élysées avec Daniel Filipacchi, quand Filipacchi a racheté Paris Match en 76. Après une période de vache maigre d'ailleurs, quand Match avait perdu son âme, en voulant ressembler à un news un peu banal, alors qu'au contraire, il avait perdu son ADN d'ailleurs à cette époque-là.
Ce qu'on appelle un Pitcher Magazine. Le modèle c'était Life, Life n'existe plus.
Life existe en digital, Jérôme.
Life a disparu, alors on se perd en conjecture sur les raisons de la disparition de Life. Certainement ils avaient un peu oublié ce qu'ils étaient réellement, et il faut dire une chose, c'est qu'un picture magazine, ça coûte cher à fabriquer, c'est-à-dire que pour faire des photos quand vous envoyez un reportage un reporter sur le terrain, quand vous êtes au Point ou à l'Express, c'est une seule personne, c'est un écrivain souvent. Quand vous faites ça pour Paris Match, vous envoyez deux personnes, vous envoyez un photographe et un auteur. Et au lieu de rester 2-3 jours, ils peuvent rester 8 jours, 10 jours, 15 jours. Donc ça coûte évidemment un petit peu plus cher, et donc il y a une équation économique qui est différente.
Alors on est avec un vendeur de journaux, figurez-vous. Bonjour Olivier.
Bonjour Pascal.
Vous êtes dans quel coin de France, Olivier ?
Alors je suis à Vron, en Baie-de-Somme. Vron se situe entre Le Crotoy et Saint-Valéry.
Donc vous vendez toute la presse ?
Je vends toute la presse ancienne, la presse quotidienne, les hebdomadaires, des revues, et notamment la célèbre revue Paris Match, depuis 1949.
Est-ce que vous savez, lorsque vous voyez la couverture de Paris Match, si ce Paris Match va bien se vendre ?
Bah, généralement, quand il y a un fait historique, oui, c'est évident. Dans notre collection, on a des dizaines de numéros qui sont très recherchés. Les 5 premiers numéros de 49 sont très recherchés. Et puis, il y a tous les événements historiques comme la mort de De Gaulle, mai 68, les premiers pas de l'homme sur la Lune, ou en juillet et août 69, Paris Match a consacré de nombreux numéros sur cet événement.
Oui, parce que si je comprends bien, vous vendez des numéros anciens de la presse. Vous ne vendez pas les numéros du jour.
Non, ah bah non. Bien.
D'accord. Mais par exemple, si je veux le premier numéro de Paris Match, que nous a apporté très gentiment notre ami Jérôme Béglé, ça vous l'avez ?
Oui, c'est en mars 1949.
Exactement, et vous le proposez à quel prix ?
Le premier numéro, le tout premier numéro sur notre site internet, il est à disposition aux alentours de 150 euros.
Ah, je pensais que ce serait plus cher que ça. Et quel
non,
est le
y a
numéro
des numéros
de...
qui sont, je dirais, beaucoup plus recherchés, comme sur la Lune, l'assassinat de Kennedy, la couverture du 30 novembre 1963 avec Kennedy est très recherchée.
Et ça, ça vaut combien, le numéro le plus cher de Match?
Bon, faut compter entre 200 et 300, 350 euros.
Et vous avez combien de numéros de Match à disposition?
Bah écoutez, j'ai pas compté, mais j'en ai des dizaines de milliers.
Ah, des dizaines de milliers?
Bah oui, parce que je...
Et vous les achetez à qui?
Bah des particuliers, sur des salons de brocante, des collectionneurs privés.
On va aller vous voir, parce qu'on peut sur Internet, vous vendez par Internet, j'imagine?
Oui, bah je suis professionnel, donc c'est mon métier
déjà. Bien sûr, mais on va prendre votre... votre marque, si j'ose dire, ou votre...
La presse du siècle.
La presse du siècle, comme ça on peut y aller pour les auditeurs qui nous écoutent. La presse du siècle.
Voilà, c'est une marque que j'ai déposée à l'INPI il y a quelques années. Et mon site internet, c'est journaux-originaux.com. Donc je suis spécialisé dans la vente de journaux des années 20 jusqu'à maintenant. Donc
c'est formidable. Et vous avez des quotidiens aussi?
Moi, j'ai à peu près 600 000 journaux au niveau des archives.
Où est-ce que c'est un bâtiment immense que vous avez?
Alors, j'ai un entrepôt, bien évidemment, qui, avec tous les journaux et les revues entreposés très bien sur des rayonnages. Et ici, à domicile, j'ai aussi une zone de stockage.
Et ça marche bien? Vous êtes content? C'est indiscret, par exemple, de vous demander le chiffre d'affaires que vous faites annuellement?
Pascal, j'ai créé ma société il y a 18 ans. J'ai démarré de rien avec un appareil photo et un petit ordinateur. Suite à deux licenciements, j'ai décidé de me lancer. Et puis, 18 ans plus tard, oui, je suis fier de dire que je fais 250 000 euros par an.
Ah oui, donc c'est intéressant. Et puis vous achetez, j'imagine, en permanence.
J'achète en permanence. Il y a 15 jours, je suis descendu avec mon épouse du côté des Vosges, près de Gérardmer, où j'ai récupéré la collection complète du journal L'Équipe, hein, comme je sais que vous êtes fan de foot en plus.
La collection complète.
J'ai récupéré le journal L'Équipe de 1970 à 2024.
Vous avez tous les numéros de L'Équipe de 1970 à 2024?
J'ai tous les numéros de L'Équipe à partir de 1965.
C'est fou. Donc, et ça, c'était un particulier qui avait gardé ça dans son garage.
Thierry Roland avait une telle collection.
Mais Thierry, bien sûr, Thierry, il avait tous les numéros de Miroir Sprint, de France Football. Alors moi,
j'ai déjà fait la même chose pour Paris Match, bien évidemment, puisque je fais ça à peu près 3-4 fois par an. Je descends, je parcours la France et j'achète des vieilles collections complètes.
Formidable.
Soit Paris Match, le journal Le Monde, le journal L'Équipe, des revues de sport, des revues de mode. Enfin bref, de tout.
Pour Jérôme info, Maigret. Le numéro des 50 ans, c'est le numéro 3, de 75 ans, pardon, c'est le numéro 3912. Donc il y a 3912 numéros de Paris Match depuis le premier numéro.
Et donc
49.
Le 4000e arrive très vite, qui va
le
être
4000e, il sera fin 2025 à peu près.
Ouais, donc ça sera un anniversaire. Bah écoutez, merci beaucoup, Monsieur Olivier. Vraiment, moi je fais qu'une collection, parce que je me méfie beaucoup des collectionneurs, et je collectionne les unes de mort célèbres, ce qui est une collection de journalistes. Alors évidemment, j'ai Staline, j'ai Kennedy, j'ai tous les papes, etc. La mort de Staline par l'humanité, j'ai Camus, j'en ai beaucoup, je peux même plus les afficher, bien sûr. Je les faisais encadrer avec un joli passe-partout, et c'est vrai que c'est signifiant.
Vous collectionnez pas les Panini également?
Je connaissais, oui. Alors, vous les avez, les albums Panini?
Alors, en tant que collectionneur privé, bien évidemment, je collectionne tous les albums Panini depuis 1970. Le championnat de France, la Coupe du Monde, les championnats d'Europe et toute la Ligue des Champions depuis 1956.
Bon, je vais aller sur la presse. Non, c'est vrai que je les ai donnés, les Panini d'ailleurs, mais il y avait football en images, vous savez, quand on était jeunes, ça vous avez en 71 ou 72, c'était avant Panini, ça, football en images, football en action même, je crois que ça s'appelait.
C'était une époque d'ailleurs où on fréquentait beaucoup les champions parce qu'on avait accès facilement à eux.
Bon, merci beaucoup Olivier. Nous sommes donc avec nos deux amis. Alors bon, il y a des noms, Patrick Mahé, évidemment qui sont liés à Paris Match. Delon, Bardot, Belmondo, Lestar, les trois plus grandes stars de France.
Bardot fait sa première couverture en 51, à 16 ans, c'est extraordinaire. Et on a des photos magnifiques de Walter Caron, où il la photographie sur le toit de l'immeuble où habitent ses parents.
Dans le 16e.
C'est magnifique, des photos extraordinaires en noir et blanc. Bien sûr, Alain Delon, Belmondo, et récemment d'ailleurs, Jérôme récemment a fait la couverture des enfants, Anthony et Paul Belmondo, dans une pose qui rappelle celle des parents.
Johnny, par exemple, il a fait combien de fois la couverture?
85 fois, Johnny Hallyday.
Et c'est le record, 85 fois.
Ce qui est amusant
fois,
avec Johnny, qu'on voit toujours en record, bien sûr. Fois.
Faudrait presque faire voir les 85.
Mais la première couverture de Johnny qui est amusante à regarder avec le recul, c'est que, alors qu'on le voit toujours en record un peu à la Elvis Presley, il est en fait en petite chemise et cravate Hermès, et c'est son premier Olympia en 62.
Donc c'est 85 en combien de temps?
Depuis 62.
Donc, ça veut dire qu'il a fait plus d'une fois par an couverture.
Oui, deux même.
La dernière fois qu'il a fait la couverture de match, c'était au moment de l'enterrement, sans doute.
C'était au moment de l'enterrement. Je ne crois pas qu'il l'ait fait après, mais il pourrait la refaire dans les semaines à venir.
Mmh. Bah, il l'a fait après quand il y a eu un retour sur le dernier dîner avec ses copains, quelques jours avant son décès.
Bah écoutez, merci bien sûr d'être venu nous voir. Ce qui est important aussi, c'est au-delà des photos, au-delà des reportages, c'est de parler de la tradition littéraire. Et on parlait effectivement de Jean Cau, mais on pourrait citer d'autres écrivains.
Irène Frein, Catherine Pancol, Jean Edernalier, Jean Cau évidemment. Plus près de nous, des gens comme Yann Moix, où ont été des écrivains importants de Match. Gilles Martin Chauffier, qui est une des plumes récentes, magnifique, excellentes de Paris Match. Et effectivement, c'est un journal qui, quand on dit...
Et notre ami Labro.
Philippe Labro.
Si vous oubliez Philippe Labro.
Qui a fait plus de 100 reportages dans Paris Match.
Oui.
Quand on dit le poids des mots, le poids des mots, c'est aussi le poids des mots écrits par des écrivains qui ne sont pas des journalistes comme les autres, qui disent des choses différentes, qui voient les choses différemment. Et cette tradition d'envoyer des écrivains sur des reportages, dans des lieux de guerre, ils nous ramènent des choses différentes que le feraient des journalistes plus classiques.
Avec des scoops, bien sûr. Alors le scoop, celui peut-être qui est le plus important, j'ai l'impression, c'est la fille de François Mitterrand, puisque les Français n'étaient pas au courant très que François Mitterrand avait une fille, Mazarine, et c'est Match.
Non, les Français n'étaient pas au courant, le cénacle parisien était au courant, ça faisait la joie des dîners en ville.
Oui.
Mais quand Françoise Giroud s'est offusquée de l'apparition dans Paris Match, elle avait malheureusement été mal placée pour le faire, puisqu'elle avait édité un livre aux éditions Mazarine qui racontait cette histoire.
Le bon plaisir,
qui est un film formidable d'ailleurs de Francis Giraud, que je vous incite à revoir avec
Jean-Louis Serrault, Jean-Louis Trintignant,
Catherine Deneuve et Hippolyte Girardot et Michel Auclair vieillissant, qui joue un vieil homosexuel, qui est un rôle formidable. Le bon plaisir, c'est vraiment un film à voir. Il est 12h43, je vais vous remercier tous les deux. Nous allons marquer, je pense, une pause. Et puis, nous allons avoir le grand débrief. C'est
le
bien
grand
ça
débrief.
Vous allez rester avec nous peut-être pour le grand débrief.
Avec plaisir.
C'est assez rigolo, le grand débrief.
Ah, c'est même très rigolo.
Vous ressemblez un peu à Baudelaire, je trouve, aujourd'hui, monsieur Béglé.
Je prends très bien le compliment.
Il y a une photo comme ça de Baudelaire, vous savez.
C'est mes cheveux,
là. Il y en a qu'une, d'ailleurs. Donc, non, mais quand vous êtes devant.
Des tiennes cartes.
Il y en a qu'une de photo de Baudelaire. Il y en a qui, vous connaissez la photo historique.
Bien sûr.
Et ben je trouve que remettez vos cheveux comme vous aviez tout de suite. Et vous trouvez pas que vous connaissez cette photo historique, quoi. Vous savez pas qui est Baudelaire, mais
vous êtes venu me parler pour ça.
Non,
c'est ça. Bon, laissez-moi tranquille.
Vous trouvez pas qu'il ressemble à Baudelaire?
Un petit peu. Si.
Je garde un petit peu le bonhomme. Oui.
Vous savez à qui ressemble notre ami?
Oula.
Tigrou?
Non, ah non, Tigrou c'est un tigre, ça serait un lion. À Tectari ou à Simba?
Mais ici, c'est le quartier d'Apollinaire.
Europe 1, le grand débrief de Pascal Pro et vous.
Musique d'ambiance, DJ, s'il vous plaît.
Car si vous étiez avec nous au tout début de l'émission, voilà ce que vous avez entendu.
Nous sommes en retard, mais nous avons eu un passage dans l'antenne avec un lion, figurez-vous. Et maintenant, une lionne avec Émilie Dez. Rappel des titres.
Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Monsieur Boubou, qui était déguisé en lion, il est toujours d'ailleurs dans le débrief. Et grrr, la mascotte du club de foot de Sochaux.
C'est bien le lion.
C'est très bien. Bah un petit peu, j'adore ça.
Ça, c'est un lion.
Le lion, la mascotte.
Fais-moi le lion.
Refaites-le.
Fais-moi le lion.
Le lion, monsieur Boubou. Merci, monsieur Boubou.
Pardon pour ça. Monsieur.
Excusez-nous, le lion, la mascotte du club de foot de Sochaux, cher à notre ami Anissa, que vous retrouvez dans la matinale et Culture Média. Un boubouk en lion, c'est un boubouk qui augmente son taux de testostérone.
Oh là là, oui, je suis tout chaud là.
Ah, monsieur boubouk tout chaud, qui n'hésite pas à tout enlever pour s'imprégner encore plus du déguisement de lion.
vous êtes nu en dessous dans votre...
Complètement nu. C'est pour ça que je me déshabille pas.
Puis vous allez bien ensemble, vous êtes fait l'un pour l'autre.
C'est, voyez pourquoi. Comme quoi, lui aussi.
Ouais, vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais attention à vous, si vous êtes déguisé en lion, un grand danger vous guette.
Et faites attention si vous allez à Beauval comme ça, hein, parce que là, vous ressortez plus. Mmh,
vous savez que le directeur est dans les locaux aujourd'hui.
Le directeur de Beauval.
Oui, oui, il est dans les locaux. Il enregistre une émission avec Elisabeth Assayag.
Il est venu chercher Monsieur Liberty.
Monsieur Liberty. Oui, laissez tranquille, Monsieur à la Liberty, notre directeur d'antenne. Bon, il est l'heure de prendre des nouvelles de notre programmateur, Florian Karasoumayan. Quel séducteur, ce Florian. Musique officielle quand il arrive dans les locaux d'Europe 1. Florian, présentez-vous pour toute la gente féminine en France.
Alors moi, j'ai 37 ans.
Quel bel âge, 37 ans. Florian a participé hier à un dîner avec des inconnus, normalement célibataires, et tout était très bien organisé.
On a tout un questionnaire qui nous demande sur... L'humour, on se situe entre 1 et 10.
Vous avez mis combien ?
J'ai mis 4.
A-t-il payé la part de sa voisine, de la jeune femme en face de lui ?
Non, chacun a payé sa part.
Ah non, oui. Oh, c'est nul, ouais, ça.
Ça,